Eh bien bonjour, dans le cadre de nos rencontres avec les auteurs, aujourd'hui j'ai eu de la chance de rencontrer Patrick Pelous. Alors Patrick Pelous, vous devez le connaître, c'est le fameux urgentiste qui en 2013 a poussé une grande gueulante parce que notre président était parti en vacances. Et c'est également la personne qui a participé à Charlie Hebdo pendant un grand nombre d'années et qui maintenant vient d'éditer un livre de plus. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors évidemment, rencontrer Patrick Pelous en ce moment, c'est Patrice, car nous nous trouvons à côté de trois gardes du corps, pas un, pas deux, trois. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient fort sympathiques et qu'ils m'ont pas accueilli à coup de je sais pas quoi. Donc voici Patrick Pelous qui vient de nous parler de son dernier livre, Toujours là, toujours prêt. Patrick Pelous, bonjour. Donc voici votre, je sais plus combien, 5, 6e, 7e livre.
Oh merde, j'ai pas compté.
Parce que là, il y en a un certain nombre, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Oh là là, ça doit
faire
9. Il y en a une autre, je crois que c'est 9e ou 10e.
Non, 5 et 3, 8. Donc, 9e, bien. Toujours là, toujours prêt. Donc, toujours chez Cherche, enfin, souvent chez Cherche Midi. Alors, on vous présente pas, juste un petit mot, médecin urgentiste, écrivain, polémiste, syndicaliste. Ça vous va tout ça?
Oui, on peut rajouter laïque, laïque et républicain et qui aime son pays, quoi.
Voilà. Et on vous a vu débarquer dans les médias en 2003, au moment où Chirac était parti, quand il faisait un peu chaud, qu'il était parti au Canada.
Ça a été mon tube de l'été, canicule de 2003.
Voilà. Donc vous avez déjà fait paraître deux livres où avec vos, comment dirais-je, vos petits mots hebdomadaires sur Charlie.
Ouais. Voilà. Ça c'est le cinquième, en fait.
Ah, c'est le cinquième. Moi, j'en ai perdu une étape. Ouais. Alors, que dire, que vous avez eu de la chance de passer à travers?
On ne peut même pas le dire. Parce que, en fait, quand vous avez un... Quand il m'est arrivé, mais comme les autres victimes, les blessés, ceux qui ont échappé aux balles... Il faut garder le principe de réalité. C'est hyper important dans le psychotraumatisme. Vous ne pouvez pas surenchérir les choses. Parce que sinon, en effet, tout est possible. Vous ne pouvez pas surenchérir les choses. Il faut rester... y a eu ces faits-là, c'est tout. Je crois qu'on se fait toujours beaucoup de mal, en fait, en faisant des hypothèses sur ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait se passer, etc. Il faut garder le principe de réalité. J'ai pas été là, voilà. J'ai pas été là et je suis intervenu quelques minutes après que les mecs aient tué tous mes amis. Et on est passé avec le commandant Tourtier... qui est le médecin-chef des pompiers de Paris. On est passé à travers la ligne de tir des nazis islamistes quand ils tuaient le policier Ahmed Merabé.
Voilà. Mais retrouver ses amis dans un état pas possible, parce qu'on n'ose pas s'imaginer dans quel état était la salle de conférence, ça doit être un choc, c'est abominable ce genre de truc.
Bon voilà, vous avez tout dit, c'est tout. Ça n'a pas de mots.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'un médecin urgentiste est plus à même d'appréhender?
Non, parce que c'est très compliqué. En fait, on pratique beaucoup la dissociation quand on fait de des métiers comme ça. Mais il n'y a pas que les médecins. C'est aussi valable pour les pompiers ou le SAMU. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites abstraction de vos problèmes. Moi ça a fait une fracture énorme dans ma tête parce que c'était mes amis, mes proches, très, 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 très intimes avec eux. Et il fallait en même temps savoir qui il fallait soigner et qui il fallait pas soigner. Donc c'était très compliqué. Ce phénomène-là, on l'a retrouvé au moment des attentats du 13 novembre, qui était une situation complètement folle. On a atteint l'inhumanité. Je veux dire, ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre, c'est exactement la même chose que
vous
ce qui
y étiez
s'est
là
passé.
Aussi.
Enfin, j'y étais aussi. Mais là, j'étais à la régulation du SAMU où on coordonnait avec d'autres collègues les secours. C'est exactement ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane.
Tout à fait.
C'est la même chose. Il y a des mots qui m'horripilent. Au Bataclan, ce n'était pas une prise d'otage, c'était une exécution collective.
Bien sûr.
Quand des policiers Parce qu'il y a des choses sordides, vous savez que comme il y avait Death Metal qui jouait, donc que les sonorisateurs sont partis, ils ont laissé les micros tourner, donc d'un coup, on entend ces ordures massacrer les gens, les tuer un par un, rire, jouer, un petit, peu, jouer un petit peu de xylophone, etc.
Ah ouais,
voilà. Et ils n'étaient pas drogués. Parce qu'il y en a qui disent, oui, ils avaient pris du Captagon, qui est la drogue à la mode chez
les
nazis
islamistes. Dans le train, c'était le cas de celui du train, non ?
Je sais pas. Je sais pas. Faut pas leur trouver d'excuses, de toute façon.
Non.
Faut pas leur trouver d'excuses.
Bien sûr que non.
Ils ont décidé de faire la guerre à notre pays, au nom de valeurs moyenâgeuses, des islamistes totalement... Enfin, c'est au-delà de la psychiatrie, hein, parce que les traités de fous, on insulte la folie. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans, en gros, que je suis maintenant dans le milieu de la médecine, quand on prend les études. Moi, j'ai jamais vu des fous vouloir assassiner la Terre entière et surtout de passer à l'acte. Là, c'est vraiment du machiavisme, c'est du nazisme. Hein, c'est du nazisme. Les informations qui reviennent d'ailleurs de ce que fait Daesh et l'État islamique sont assez hallucinantes. Hein, quand on sait que maintenant ils apprennent à des enfants, ils les éduquent pas, ils apprennent juste aux enfants à marcher avec des ceintures de bombes pour se faire sauter auprès des personnes cibles. Daesh qui a dit qu'il allait s'en prendre au secours et attaquer encore la France. Bon ben voilà, après il faut que notamment parmi les musulmans et un certain nombre d'imams en France, il faut qu'ils choisissent leur camp maintenant. Mais il faut qu'ils le disent.
Oui, non, mais ça m'en choque.
Non, ça suffit, il faut qu'ils le disent. Moi, je suis d'accord avec vous. J'étais très content de voir qu'après les attentats du 13, il y avait des musulmans laïcs. Hein. Il y a des musulmans qui sont progressistes, qui veulent une religion un peu progressiste et des lumières. Bon, ben, ils ont manifesté. Je pense qu'ils auraient dû être beaucoup plus nombreux. Bon voilà, on est dans un radicalisme. Moi, je partage complètement ce qu'a dit le président de la République, bien sûr, et Emmanuel Valls sur la laïcité, Elisabeth Badinter sur ce que doit être la laïcité. Il ne faut pas abandonner la laïcité. La laïcité, c'est une et une seule.
Moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'on dise qu'on est en guerre.
On est en guerre. Je vais vous dire pourquoi on est en guerre. Parce que je n'ai jamais vu, je suis médecin, je n'ai jamais vu des plaies par arme de guerre. Mais jamais. Mais si vous voulez pas dire le mot guerre, pensez à ce qui s'est passé à la Belle Époque, où vous avez des gens comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, qui étaient en train de manger à la cool. C'est vendredi soir, ils sont là, c'est un petit peu doux dans Paris. Massacrés avec des armes de guerre.
Oui, ça, on est d'accord. Oui.
Sans défense. Tuer tout le monde. Tout le monde. Ils ont assassiné aussi bien des athées, des cathos, des juifs, des musulmans, des enfants, des vieillards, des malades. C'est ça leur putain de religion ? Non, sûrement pas. C'est pas ça.
Moi, je voulais dire par rapport au fait que pour moi, c'est faire trop à Daesh, qui n'est pas un pays, qui n'est pas un gouvernement. Et c'est trop leur mettre dessus. On est en guerre contre un pays.
Non, mais l'État islamique se veut être un pays. Je suis désolé.
Oui, mais il n'est pas reconnu par
l'État. Non, mais c'est on peut pas tergiverser. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. La France est attaquée à plusieurs reprises. On n'a jamais eu autant de morts depuis la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ce sont des attentats.
C'est pas évident avec pendant la guerre d'Algérie, il n'y en a pas eu autant.
Paris.
À Paris. D'accord.
Vous n'avez jamais eu un tel massacre.
D'accord pour Paris.
Les mots ont un sens. Ils doivent mobiliser la communauté internationale détruire ça. Vous savez quand même que 85% des victimes de Daesh, d'Al-Qaïda, de l'État islamique, de Boko Haram, ce sont des musulmans.
Bien sûr.
Donc ils tuent tout le monde.
Oui, oui.
C'est exactement les mêmes interpellations que se sont posées sans doute des intellectuels, des gens dans les années 36.
Pour Hitler, oui,
la montée du nazisme, mais oui, mais non, mais etc., etc. Il y a un véritable parallèle entre le nazisme et Daesh. C'est exactement la même chose. On tue tout le monde, on humilie les femmes. On n'a aucun progrès. On veut. Ils font des génocides, hein, ce que racontent les Kurdes, ce qui a été redécouvert par les communautés internationales qui ont libéré des villes en Syrie. Ce sont des génocides. Donc, il faut faire la guerre. C'est pas. Il faut dire les mots. C'est la guerre. Moi, j'ai vu des pathologies de guerre. Les psychotraumatismes, nous suivons à l'heure actuelle, après juste les attentats, du 13 novembre, 5000 personnes.
Donc, ils sont atteints de psychotraumatisme. D'accord. Et qui étaient dans le coin ou même pas du tout ?
Les familles ou dans le coin, bien sûr. Parce que vous savez, Paris, le parcours qu'ils ont fait, ça a touché beaucoup de monde.
Oui, c'est un grand tour, oui.
Après, vous prenez, il y a un sociologue qui a fait une étude, ça touche à peu près 7 millions de personnes, l'attentat du 13 novembre.
Ah oui.
Donc si ça, ce n'est pas des attaques contre notre pays, ce que nous représentons, notre civilisation, on ne peut pas les combattre avec Candy Crush, d'accord, des Sudoku, et puis des belles paroles, ou de faire comme on fait les gens du front de gauche en disant « on va aller parler à Tariq Ramadan, qui est l'un des intellectuels des Frères musulmans ». C'est hors de question. Moi, je suis en rupture totale avec ça parce que on peut pas les parler. Quel serait le signe ? Les signes majeurs, c'est d'obtenir la paix à la racine du mal, c'est-à-dire en Syrie, c'est-à-dire en Afghanistan, c'est-à-dire qu'il y ait des traités de paix, de cesser le feu, etc. C'est ça qui tendrait quelque chose. On ne peut pas... et c'est très compliqué. Moi, je me souviens quand on est allé à Copenhague après l'attentat antisémite qu'il y a eu en janvier à la synagogue. On avait parlé avec le maire de Copenhague qui disait « Mais on a tout fait pour calmer leur communautarisme. Ils ont voulu des mosquées, on leur a fait des mosquées. Ils ont voulu des centres culturels, on leur a fait des centres culturels, etc. »
Oui, mais c'est pas cela.
Et non. Et vous avez, les Danois ont le plus fort taux de départ en Syrie pour faire le djihad. Alors, ils ont construit des centres de déradicalisation. Ils en ont mis. Réponse qu'ils ont fait aux parlementaires français, de droite comme de gauche, qui sont allés voir. Ils ont dit, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien. Non, mais ça paraît, ça me paraît évident.
Ça sert à rien. Donc, je ne sais pas. J'ai plus de questions que de réponses. Donc, comme j'ai plus de questions que de réponses, je suis à mon poste, à l'hôpital. On prépare chaque jour, nous travaillons sur les plans de secours. Nous passons le message aux autres collègues des autres services d'urgence, des SAMU, de se préparer.
Parce qu'à votre avis, quelque chose d'autre va revenir.
Bien sûr. C'est évident.
D'accord.
Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. On se bat pour ça.
Alors, on se rappelle des terroristes quand ils sont sortis ou qui rentraient, je ne sais plus. Donc, ils sortaient de Charlie. Ils disaient on a tué Charlie.
Ah non, Charlie n'est pas mort. Non, ils se sont trompés. Non, Charlie n'est pas mort. Moi, Charlie Hebdo continue. Il faut que Ciné Mensuel continue. Le Canard Enchaîné continue. Il faut que tous les journaux embauchent des dessinateurs de presse. Faut faire vivre le blasphème. Non. Il y a Charlie Hebdo est bien vivant, marche très très bien. En plus, c'est l'un des journaux les plus riches de France.
Absolument.
Les plus riches de France. Alors, bon, moi, je l'ai quitté pour des raisons strictement personnelles et pas du tout contre qui que ce soit du journal. C'est que je pense que mon temps est.
Pendant combien d'années vous avez écrit ?
Ça fait à peu près. Ça fait 13 ans. Ça fera 13 ans cette année. 13 ans cette année. C'était une volonté. De ma part, comment dire, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un groupe de rock et puis que vous avez la moitié du groupe qui a disparu.
Oui.
Vous essayez de rejouer les mêmes morceaux, ça passe pas. C'est comme ceux qui essayent de refaire Queen, les Beatles.
Parce que là, il y a eu 8 personnes tuées. Il y en avait combien ? 9 ?
9. Bah, sur la rédaction, on était 25,
d'accord,
en gros.
D'accord.
Une bonne vingtaine.
Mais on peut admettre que là, c'était quand même les...
Vous savez, moi, j'étais très proche de
Charles. C'est ce que je voulais.
Mais j'étais très proche de Cabu. En fait, j'étais proche de tous.
Dans votre livre, vous parlez beaucoup de Charles.
Oui, ben oui, parce que Charles, on était fusionnels, c'est-à-dire que c'était un peu mon frère, c'était un peu, on était toujours ensemble. C'était un homme terriblement bon. On vivait quasiment ensemble. Bon, chacun avec son jardin privé, ses machins, mais on vivait ensemble. On s'appelait tout le temps. On avait des tas de projets, des tas de choses à faire. On avait les mêmes visions sur les combats politiques, les combats sociaux, les combats humanistes. Donc on était tout le temps ensemble, tout le temps très très proche, avec une très grande tolérance des choses. Donc c'est vrai que faut pas les oublier, parce que si vous voulez, ils ont... Bon, d'abord, premièrement, il n'y a pas des victimes supérieures à d'autres dans des attentats.
On est d'accord.
Bon, c'est pour ça que l'hommage, ça m'a fait marrer, ceux qui n'ont rien compris, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent rien, sur l'hommage qu'il y a eu Place de la République au mois de janvier, là, début janvier, où Johnny est venu chanter. Alors les gens, ils ont dit, ah, vous vous rendez compte, Johnny qui est venu chanter pour Charlie Hebdo, il ne l'aimait pas. Mais ils n'ont juste rien compris.
C'est pas le problème.
C'était pas un hommage à Charlie Hebdo. Johnny Hallyday, c'est un artiste. Et donc, moi, je respecte l'artiste. Je trouve qu'il a très bien chanté. Moi, je n'étais pas fan de Johnny. J'écoute pas de Johnny. Mais finalement, quand tu te dis, est-ce que je connais des chansons de Johnny, tu en fredonnes d'emblée à peu près 5 ou 6.
Qui c'est qu'il a choisi, Johnny?
Bon, c'est la mairie de Paris, mais d'accord. Ça s'imposait de lui-même. C'est la France. C'est la France, c'est Johnny, quoi. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Mais on n'a pas les Rolling Stones, on n'a pas fait Bruce Springsteen, on n'a pas fait Lenny Kravitz. Voilà, on a fait Johnny. Après, les chanteurs qui sont aussi populaires que lui, ils ne veulent plus chanter. Tu vas aller chercher Goldman, il ne voudra pas chanter. C'est comme ça, voilà. Tu vois ? Après, téléphone, on ne sait pas trop où ils en sont, ils changent de nom. Enfin, tu vois, c'est vachement compliqué. Jeanne Chéral a fait une très belle chanson, donc c'est bien. Et puis tout le monde a oublié que dans l'hommage, on a chanté le temps des cerises, le chant de la commune.
C'est ça, oui.
Alors évidemment, t'as des mecs d'extrême gauche qui ont dit « Ouais, mais chanter les chants de la commune par l'armée, c'est scandaleux. » Eh les mecs, c'est pas les Versaillais, c'est l'armée de la République qui trouve ses racines justement chez les communards. Non mais c'est... On a le don dans notre pays de toujours tout contester, de tout. La contestation sur le front de guerre, faut choisir ton camp, camarade. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est mon pays, c'est le drapeau, c'est les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, les valeurs des services publics. C'est des valeurs qui, à mon avis, qui sont bien sûr des valeurs de gauche, mais qui sont au-delà du truc. Alors après, c'est vrai que la réponse qui fait la différence entre la réponse de droite et la réponse de gauche par rapport à ce qui nous arrive, c'est que je pense que la réponse, elle est avant tout sécuritaire. Sécuritaire. Donc état d'urgence, on fait gaffe, etc. On renforce les machins, on protège la population. Très bien. Mais elle est aussi sur l'éducation.
L'éducation. De base, le premier truc,
l'éducation. L'éducation, mais dès l'école maternelle, mais il faut mettre le paquet encore plus, etc., etc. Et la culture, tu vois, par exemple, tu prends le président iranien qui vient en France, alors il a visité un musée à Rome, ils ont caché les machins.
Alors il dit qu'il y est pour rien.
Mais non, mais je pense qu'il y est pour rien.
Oui, mais c'est des abrutis.
Je pense qu'il y est pour rien. Mais bien sûr, mais je pense que c'est des abrutis. Tu vois, c'est comme le MEDEF, ces connards du MEDEF qui d'un coup sont incapables de aligner trois patronnes devant eux.
Ouais,
tout ça pour sucer la teub du richissime qui vient pour vendre. C'est complètement débile. Faut pas faire ça. Faut qu'on soit Michel Obama. Michel Obama qui va en Arabie Saoudite, qui met pas le voile. Il est où le problème? Voilà. Alors, l'éducation, la culture, et bien sûr, de toute façon, tu retombes sur un problème de fond qui est de trouver des buts à une jeunesse, parce que c'est là le problème, quand regardes le profil des assassins, de ces jeunes nazis, de ceux qui sont partis, notamment de Lunel. Bah, ils sont pas malheureux, ils sont dans un pays riche, ils sont habillés, ils bouffent, ils ont accès à plein de choses, il suffit qu'ils travaillent, ils n'ont pas envie. Et c'est là où il y a une génération dans les années 60 qui avait le pouvoir des fleurs, qui aimait le rock'n'roll, etc. Et là, tu as une génération qui se dit, mais finalement, réinventer les lois du Moyen-Âge, tuer tout le monde, parce que je rappelle que tu as quand même Daesh qui a demandé à un jeune Français de mettre une balle dans la tête de sa mère qui était venue le chercher en lui disant, mon petit, il faut que rentrer. Le type a quand même assassiné, au nom d'Allah, donc, sa mère. Ça donne pas tellement envie, tout ça. Et c'est là où on se dit, on a besoin des imams, mais comme on a besoin de curés et de rabbins progressistes et qui disent que la religion, c'est un truc que t'as entre les oreilles, mais faut pas faire chier une société, une civilisation. Absolument. Et c'est là le truc, c'est là le truc. C'est-à-dire que d'un coup de on a oublié, là, tout le monde l'a oublié, mais le soir des attentats du 13 novembre, l'imam de Drancy a été attaqué. Donc il faut protéger ça. Moi, je suis complètement contre la construction des lieux de culte. Ils ont qu'à se débrouiller entre eux. Il y a suffisamment d'églises. Ils se débrouillent, tu vois, les lieux de culte, machin. La solution n'est pas en 2016 de se dire on va aller vers plus de religions. Il faut qu'on aille vers moins de religions. Après, les gens y croient en ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas continuer. Et c'est là où moi je rejoins complètement Manuel Valls sur la laïcité. Moi, je ne sais pas ce qui a pris à Bianco de dire qu'il faut une laïcité à deux étages.
Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ça ne se découpe pas, ça.
Ça ne se découpe pas. Alors maintenant, est-ce que je suis optimiste ? Ouais. Je suis convaincu.
À vous écouter, excusez-moi, à vous écouter, ouais. On retrouve totalement le Patrick Peloux. Ouais,
parce que c'est moi qui ai écrit le livre.
Oui. Non, mais on le retrouve complètement dans ses énervements. Ou quand vous expliquez un petit effet, quelque chose qui s'est passé dans les urgences, alors qu'il peut être grave, qu'il peut être amusant. Ouais. Et chaque fois, on retombe sur un fait social.
Et ça,
quelque chose d'original.
Est-ce que tu as des faits sociaux Et cette époque est merveilleuse. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est à la queue de la fin de l'intégrisme religieux sur la planète.
Vous y pensez ?
Ah, j'en suis convaincu. C'est la fin.
Mais ça ne se fait pas en douceur. Hein.
Ça ne peut pas se faire en douceur, parce que c'est comme les bêtes immondes, quoi. Elle réagit, elle veut mordre encore, mais je suis convaincu de ça. Qu'est-ce qui sera la fin ? C'est quand Daesh, Al-Qaïda vont commencer à attaquer le Qatar. C'est bizarre, ils attaquent jamais le Qatar, ils attaquent jamais l'Arabie Saoudite. Il faut dire que c'est eux qui leur donnent un peu de pognon.
Ah oui, c'est ce que je vais vous dire.
D'accord.
Oui,
bon, voilà, mais le jour où ça va être vite réglé, voilà. Non, ma grande crainte, c'est les prochains attentats qu'ils essaieront de commettre ou qu'ils commettront en France, qu'est-ce que ça donnera ? Parce que ça fait quand même un moment que ça dure, hein, depuis 2012.
Il y a l'impression que les services spéciaux, ils sont un peu à côté. Hein.
Non, ils ne sont pas à côté.
C'est une aiguille dans une botte de foin, c'est clair.
Ils ne sont pas à côté. La police, l'armée, la gendarmerie, ils ne sont pas à côté. Ils bossent comme des fous. Mais on a eu tendance à minimiser ce qui se préparait. Dès l'attentat contre l'école aux Zaratora à Toulouse. Dès cette attaque. On a minimisé les choses. On n'a pas été assez radical, notamment
mais
dans les écoles.
C'est un problème politique ou c'est juste un problème...
Ah, c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la loi sur les signes ostentatoires à l'école doit être imposée et généralisée à l'université.
Je sais, je suis à l'université, moi.
Oui, c'est évident.
Oui.
Bon, premièrement. Deuxièmement, il faut radicaliser. C'est pas radicaliser, il faut réappliquer la loi sur la laïcité pour que les collectivités, tout ce qui est argent public, ne payent pas les lieux de culte. Voilà. Et après, il faut combattre par... l'information et la communication, tout ce qui est de près ou de loin le prosélytisme de ces religieux. Là, j'ai vu l'imam de Montpellier là, qui a dit encore des trucs incroyablement révoltants contre les femmes. Oui, hier, où il fallait les femmes, faut pas les considérer. Enfin, c'est un autre là à Brest qui a un imam qui a dit faut pas écouter de la musique sinon tu te changes. Il y en a un autre là qui a dit que si tu te masturbes, quand tu seras mort, tu auras des grossesses sur les mains. Non mais il va falloir qu'on agrandisse Sainte-Anne.
Non mais c'est clair,
ça rigole pas parce que t'as plein de jeunes qui
les croient
et qui les croient. Donc il faut mettre le paquet sur tout ça. Mais bon.
Alors on vous sent encore tout virulent. Bon, vous avez quitté Charlie, vous n'avez pas envie d'en faire ailleurs, des petites rubriques?
Bon, d'abord, on ne m'a rien proposé. Et puis j'ai rien cherché.
D'accord.
Le truc, moi, j'ai quitté Charlie, bon camarade, et le journal doit vivre, et il doit se développer. Ils vont sans doute trouver d'autres personnes pour écrire. Et voilà, la presse doit continuer. Mais tu vois, par exemple, moi j'étais allé à un débat, j'avais gueulé sur BFM et tout ça, en leur disant, vous ne marquez jamais que c'est des images de propagande. Tu sais, quand tu passes ces espèces d'images, ils ne comprennent pas que ce sont des images de propagande et qu'à chaque fois qu'ils passent les images de propagande sur ces chaînes d'infos pendant ils propagent la chose. Où tu vois ces espèces de petits jeunes, un peu beaux gosses quand même,
un peu beaux gosses
qui posent un peu le ténébreux, tu vois, un peu le genre Che Guevara, tu vois, avec la barbe, tout ça, qui caresse un cheval avec sa kalachnikov, l'ordure, et puis d'un coup, il passe ces images. Mais
celui qui avait tué là, les personnes. Ces images,
il traînait sur son 4x4 en disant bah ouais, le mec, c'est comme s'il sortait de chez Carrefour.
Absolument, il venait faire ses commissions.
Oui, bah, je traîne des mécréants, machin, des apostats, ils inventent des. Mais c'est
hallucinant.
C'est hallucinant. Mais et on ne peut pas faire autrement que de les combattre et que c'est la guerre. Et tu vois, il y a des questions de fond. Par exemple, la France, depuis 50 ans plus, a investi dans l'arme atomique en disant on ne nous attaquera jamais parce qu'on
mais
a le.
Pas prévu, l'arme,
ça, voilà. Mais oui, mais le problème de l'intelligence, c'est de prévoir l'impossible.
Absolument.
Et là, on s'aperçoit, la dissuasion nucléaire, elle ne sert à rien.
Rien du tout.
Hein. Rien du tout. Et donc. Le discours politique de Raffarin en 2004, quand Raffarin avait dit on va tirer les bénéfices de la paix, on va diminuer les budgets de l'armée, regrouper, ça ne sert plus à rien. En gros, la guerre, elle n'était plus qu'économique. Enfin, ce n'était même pas une guerre. C'est une guerre entre grands argentiers. Ils se sont trompés.
Absolument.
Ils se sont trompés. Et ceux qui étranglent les pays avec la culture de la dette, qui était un des derniers débats que j'avais eu avec Bernard Maris en disant que cette dette, c'était totalement illusoire. De dire on n'aura plus de dette. Bernard adorait me dire, mais Louis XV avait déjà une dette. Louis XIV avait, tout le monde avait des dettes. Mais à l'époque, c'était des dettes souveraines. Donc d'un coup, le mec disait, bon, hop, il n'y a plus de dette, un tirateur recommence.
Voilà.
Je pense que c'est ça. Il faut revoir les traités européens parce que c'est la dette. Quand on rembourse 4 à la dette, il y en a seulement un vraiment sur la dette. Les 3, c'est les intérêts aux assureurs et
absolument,
aux banques.
Absolument.
C'est odieux.
Et quand on sait que les banques, ils n'ont rien tiré des problèmes qu'ils ont
eu,
rien, ils continuent pareil. Hein.
Rien, ils continuent pareil.
Je lisais, je ne sais plus quoi, il paraît qu'ils
mais qu'est-ce qu'un banquier, face à un djihadiste et à une balle de Kalachnikov? Rien du tout. C'est le même cadavre.
Oui, absolument.
Il faudrait juste qu'ils comprennent que c'est l'humanité dont il faut s'occuper, pas des comptes en banque.
D'accord. Merci.
Merci beaucoup.
Patrick Peloud, on rappelle votre livre. Toujours prêt, toujours là, toujours prêt.
Ouais. J'ai fait ce titre, c'est un hommage à la devise des Marines américains qu'ont évité le carnage dans le Thalys, le 21 août, qui était la date de l'anniversaire de Charles.
Et voilà, vous avez répondu à une question que je voulais poser et que j'ai oubliée. Merci beaucoup.